VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Politique en RDC, le parti d'opposition UDPS va brandir le carton rouge au président Joseph Kabila le 19 décembre afin de lui signifier la fin de son mandat et exiger son départ de la tête du pays. Jean-Marc Kaboun, secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi, l'a rappelé ce lundi à Kinshasa. M. Kaboun a une nouvelle fois rejeté l'accord politique qui a sanctionné le dialogue le 18 octobre, traité de non-événement la nomination de Sami Badibanga comme premier ministre et souligné que seule une rencontre entre le président Kabila, Étienne Tshisekedi et leurs alliés respectifs pour une gestion consensuelle de la transition permettra de décrisper la tension politique. On écoute Jean-Marc Kaboun.
Les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre pour notre jeune démocratie, nous ne suivrons pas les va-t-en-guerre qui pullulent dans la majorité élargie, rampant au pied de M. Kabila et faisant des courbettes pour obtenir des postes et des avantages personnels. C'est un dialogue inclusif, mettant face à face Kabila et ses alliés du camp Tshatshi d'une part, qui sait que dire le rassemblement avec leurs alliés d'autre part permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu'aux élections. Sami Badibanga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avaient choisi d'ignorer le mot d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale depuis 2012. Sami Badibanga et ses collègues se sont auto-exclus du pacte. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours.
Jean-Marc Kaboun, secrétaire général du parti UDPS d'Étienne Tshisekedi. Ouganda, le bilan des combats du week-end dans l'ouest du pays entre les forces de police et des miliciens alliés à un monarque local atteint maintenant 62 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de sécurité. Un bilan initial de 55 tués avait été communiqué dimanche. Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
Nouvelle monnaie au Zimbabwe, dénommée billet d'obligation de 2 dollars et pièce d'obligation d'un dollar. Leur apparition sur le marché a provoqué l'effet inverse des espoirs exprimés par les autorités. Eric Manirakiza.
La Banque centrale de Harare a lancé aujourd'hui des pièces petites coupures indexées sur le dollar américain. Harare cherche à remédier au manque criant de liquidités, mais ces billets d'obligation de 2 dollars et pièces d'obligation de 1 dollar ont poussé nombre de Zimbabwéens à se ruer vers les guichets des banques pour retirer des dollars américains. Les contribuables redoutent une nouvelle flambée des prix comme au début des années 2000. Un vendeur de chaussures a avoué discrètement qu'il exigeait 25 dollars de la nouvelle monnaie pour une paire de chaussures contre 20 dollars américains. Pour lui, il n'y a aucune chance pour que cette monnaie puisse avoir la même valeur que le billet vert. Anthony Hawkins, économiste à l'Université du Zimbabwe, renchérit en disant que la mauvaise monnaie chasse la bonne et que le cœur du problème n'est pas réglé. Cette nouvelle monnaie a ravivé la fronde contre Robert Mugabe. L'opposition a annoncé de nouvelles manifestations mercredi contre l'effondrement de l'économie.
En Afrique du Sud, au moins 3 ministres du gouvernement sud-africain appellent à la démission du président Jacob Zuma, embourbé dans une série de scandales de corruption qui suscitent de plus en plus de critiques dans son propre camp, selon des médias locaux. Depuis samedi, les instances dirigeantes de l'ANC, le parti au pouvoir, sont réunies à huis clos dans un hôtel de Pretoria pour discuter de l'avenir de leur président et chef de l'État, Jacob Zuma, dont le second mandat ne doit s'achever qu'en 2019. Initialement prévu pour s'achever hier, cette réunion a été prolongée jusqu'à ce lundi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le djihadiste d'origine algérienne Mokhtar Belmokhtar Ali Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI a été visé récemment par une frappe aérienne française en Libye et est probablement mort, a indiqué ce lundi un responsable américain. Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe Al-Mourabitoun, qui a mené de nombreuses attaques sanglantes dans la région du Sahel, a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 lors d'une frappe aérienne américaine en Libye. Et puis en Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo avec la présence de ses avocats, mais en l'absence de Madame Gbagbo, qui refuse de comparaître pour exiger la déposition en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion Guillaume Soro. La cour d'assises d'Abidjan, qui juge l'ex-première dame, va établir demain mardi un calendrier de passage des personnalités ivoiriennes, forme de discorde entre l'accusation et la défense depuis plusieurs semaines. En Syrie, peut-être un tournant dans la guerre qui ravage le pays depuis 5 ans et demi, la reconquête d'Alep, la grande métropole du Nord, par le régime est maintenant une question de jour, ce qui serait un coup dur pour les rebelles et leurs alliés occidentaux. Anastasie Toudiech.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les troupes de Bachar al-Assad, avec des moyens militaires supérieurs et l'aide de leurs alliés russes et iraniens, se sont aujourd'hui emparées de tout le nord-est d'Alep. Après avoir mis en échec plusieurs offensives du régime depuis un an, les rebelles sont débordés par la vaste opération terrestre et aérienne lancée le 15 novembre. Une perte d'Alep Est infligerait aux différents groupes rebelles leur pire défaite depuis le début du conflit syrien en 2011. En outre, ce serait une défaite des alliés de l'opposition, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et les pays occidentaux. La communauté internationale a gardé le silence sur l'évolution des combats. Les États-Unis attendent l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Damas veut profiter de ce laps de temps pour réunifier Alep, la deuxième ville de Syrie.
À Cuba, des centaines de milliers de Cubains ont afflué ce lundi sur la place de la Révolution à La Havane, la capitale, pour un dernier hommage à Fidel Castro qui vient de mourir à 90 ans. Des détails avec Nani Talani.
Cette cérémonie est le premier temps fort d'une semaine d'hommage au leader Massimo. Le choix de la place de la Révolution est très symbolique. L'endroit a été le théâtre de nombreux discours fleuves de Fidel Castro contre l'ennemi impérialiste américain. Après 2 jours sous le choc, les Cubains donnent libre cours à leurs émotions. Les cérémonies ont débuté par une salve de 21 coups de canon tirés depuis le fort qui surplombe la baie de La Havane. Des centaines de milliers de personnes, voire des millions, tous les âges confondus, se sont pressés sur la vaste esplanade dominée par une photo géante du disparu. Les funérailles auront lieu dimanche après une procession à travers le pays. Les cendres de Fidel Castro seront transférées à Santiago dans l'Est, berceau de la Révolution. Donald Trump, président élu des États-Unis, a menacé de mettre fin au dégel avec Cuba si La Havane ne donne pas plus de garanties en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique.
La mort de Fidel Castro a donné lieu à des manifestations de joie, notamment à Miami, en Floride, ici aux États-Unis. Les anticastristes lui reprochent d'avoir été un dictateur impitoyable à l'égard des opposants. Politique aux États-Unis, transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump. Le prochain chef de l'exécutif américain a dénoncé hier soir ce qu'il a appelé une grave fraude électorale à la présidentielle du 8 novembre. Donald Trump affirme, sans en apporter la preuve, que des millions de gens ont voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à la démocrate Hillary Clinton. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un contexte de transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Ces 3 États clés sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump et le camp Clinton a annoncé samedi qu'il participerait au nouveau décompte dans le Wisconsin, ce qui a fait sortir de ses gonds le bouillonnant milliardaire. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral, j'ai gagné le vote populaire, si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. Ni lui ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Rappelons que le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant au scrutin universel indirect 290 grands électeurs contre 232 à sa rivale démocrate. En revanche, en termes de suffrage, suffrage populaire, Hillary Clinton a recueilli 2,2 millions de voix de plus que Donald Trump.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.